Le goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé,
amer,
sucré,
ça pique,
fumé,
gras,
pétillant,
umami. Mmh.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Ah là, ils se disputent un peu ?
Eh oui, ils ont faim, hein. Mais on ne commence pas à charcuter tant qu'ils n'ont pas mangé de châtaigne. Ça te donne un petit goût de noisette et de douceur. Il a plus de goût, le gras, que le maigre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 7.
Gras.
Ouh là là, le gras, attention, terrain glissant. D'un côté, arrose sur le gras, on le tient responsable de nos quelques kilos en trop et même carrément de cette obésité qui enfle dans nos sociétés modernes. Mais certains gourmets rétorquent avec un brin de provocation, le gras, c'est le Graal, le gras, c'est la vie, le gras, c'est pas grave. Encore faut-il savoir de quel gras on parle. Y aurait-il, du point de vue du goût et de la nutrition, le bon gras et le mauvais gras? C'est une des questions qu'on met sur la table avec notre scientifique Gabriel Lépouzé. Il est neurobiologiste à l'Institut Pasteur et fondateur de l'École du Nez. Cet expert des perceptions sensorielles interroge même cette hypothèse selon laquelle le gras serait une nouvelle saveur, au même titre que le sucré, le salé ou l'acide. Le bon gras, je suis allé le traquer en Corse, au cœur d'un jambon d'exception, mais aussi à Marseille, au fond du mortier. L'aïoli, ça vous dit peut-être quelque chose. Et puis du gras, il y en a en abondance dans la langue française, c'est ce que nous expliquera notre linguiste, Aurore Vincenti. La recette de Saveurs Savantes, c'est un tiers de cuisine, un tiers de science, un tiers de culture. On mélange bien dans un shaker, avec un soupçon de cinéma, des morceaux de littérature, et on obtient un cocktail de savoir et de saveur. Je vous le sers bien frais, pendant tout l'été. Allez, on affine la question du gras, ses délices et ses dégâts.
Saveurs Savantes. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Derrière le gras se cache un autre mot que tout le monde connaît, c'est les lipides. Les lipides, gras, lipides, ce sont la graisse, ce sont les huiles. Elles ont en commun, toutes ces substances, d'être des agents qui sont non miscibles avec l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec l'eau. On peut tous faire une expérience à la maison simple pour comprendre leur capacité à ne pas se mélanger avec l'eau. On met un peu d'huile avec de l'eau, on essaie de mélanger rapidement, l'huile et l'eau vont se séparer. On voit bien qu'il y a deux agents qui ici ne peuvent pas se mélanger du tout. Le gras, il est vraiment partout dans notre alimentation. Ces lipides, on peut voir ça sur des notices d'aliments, mais en fait, ce gras est partout aussi dans les constituants de notre alimentation. Et puis aussi, il est partie intégrante de notre corps, il est un des constituants de notre corps. Donc le gras, il est partout, on en retrouve dans les végétaux, dans certaines graines qu'on va presser pour extraire une huile, on va retrouver bien ça dans les graisses animales, la graisse de bœuf, de porc, de volaille. Et puis finalement, on se rend compte que le gras est vraiment un constituant de la cuisine, un élément, un ingrédient de la cuisine et de la construction d'un plat.
Gras.
Alors vous mettez bien, voilà, vos masques. Là, je dépose quelque chose dans votre assiette.
C'est mou, c'est un peu gras.
Un peu huileux. Ça laisse une substance sur les doigts.
C'est un peu mou, mais c'est quand même un peu dur et ça glisse, donc ça doit être du gras.
Ça me fait penser tout de suite au lardon.
Ça a un goût fumé, c'est très bon.
De la viande.
Oui, les gras du porc.
Et j'ai toujours aimé le gras parce que y a du goût dans le gras et...
C'était du lard. C'est le gras du cochon, le gras du porc.
Saveurs Savantes.
Gabriel Lépouzé, en plus d'être un scientifique, vous êtes un vrai gastronome. Quel est votre rapport à la charcuterie, les salaisons?
Moi, j'aime cette dualité, cette richesse qu'il y a dans la charcuterie et la salaison, qui vient à la fois du gras, qui apporte toute cette texture douce et agréable et caressante. Et puis, dans la salaison, il y a aussi la viande qui a subi un processus de fermentation, de transformation, qui va libérer, avec la maturation, des composés umami, qui vont être très agréables aussi, qui vont aussi apporter une salivation assez intéressante et caressante. Donc tout ça, c'est l'hôte de la caresse, finalement, la charcuterie. Étant originaire du Sud-Ouest, j'aime beaucoup le porc noir de Bigorre, mais on a ce savoir-faire artisanal en France du porc dans bien d'autres endroits. Il faut même, par exemple, aller en Corse, là-bas, pour voir un autre terroir d'élevage du porc.
Je vous emmène en Corse ?
Avec plaisir.
La Corse est une terre d'élection du cochon, et en particulier un cochon de race ancienne, le noustral, réputé pour donner une charcuterie exceptionnelle. Dans certains jambons, le gras aurait même plus de goût que le maigre. Je tente de résoudre cette énigme en compagnie de Félix Thor. Il est éleveur de porc corse et charcutier dans le village de Coutoli. Ce n'est pas très loin d'Ajaccio, en Corse du Sud. Allez, j'enfile mes bottes et je prends le maquis avec lui.
Tu peux rentrer, hein. Ils vont pas te manger.
Là, on est devant combien de porcs noustral ?
Ici, il y en a 22. On commence à faire la transhumance.
Là, on est vraiment en présence de la race porcine corse pure.
À 100%. Il est trapu, il a les oreilles qui descendent sur les yeux. Le museau, il n'est pas trop long. Il est vraiment court en pattes. C'est le cochon idéal pour la Corse.
Et puis, il a surtout une robe très sombre, noire.
Noire avec la bande blanche. Voilà, la ceinture blanche qu'on appelle. Sous une châtaigneraie, bon, les cochons sont heureux. Ils sont en semi-liberté parce que bon, c'est des parcs de 25 ou 30 hectares. Voilà. Et les cochons sont dedans. C'est ce qui fait la qualité de notre viande. Et là, on les fait manger. Tant qu'il n'y a pas de châtaigne, on fait manger. De fin mai jusqu'au 10 octobre, on fait de la pâtée tous les jours avec de la farine d'orge.
Farine d'orge 100%?
100% farine d'orge et un peu de petit lait.
Et ensuite, par ailleurs, ils trouvent dans cette nature préservée, dans leur terrain de jeu, de quoi se nourrir aussi.
Oui, ils trouvent un peu d'herbe, un peu de repousse de ronces. Ils mangent un peu de fougère, la pointe de la fougère, quelques racines. Mais c'est la bonne période.
Et alors par contre, là où c'est la fête gastronomique pour eux, c'est vraiment l'automne.
Ah ouais, c'est l'automne. À partir du début novembre, ils font une finition châtaigne. Et après, on commence à les monter à l'abattoir.
Le porc noustral, c'est un porc qui est rustique, parfaitement adapté à son environnement. Et en même temps, contrairement à un porc à des races plus modernes, il prend son temps pour croître.
Bah, si tu commences à nourrir un cochon, par exemple, de l'enfermer dans un parc de 2 mètres carrés ou même pas 1 mètre carré comme ils font sur le continent ou ailleurs, le cochon, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre que de l'eau. Le gras, déjà, ne va pas être le même. Il va être un peu huileux, tandis que le nôtre, il est sec et il est très goûteux.
Là, voilà la question du gras. Est-ce qu'on élève ce porc aussi pour avoir un excellent gras qui est d'habitude dans le cochon une matière qu'on a tendance un peu à rejeter?
Chez nous, le gras est supérieur au maigre. Il a plus de goût, le gras, que le maigre.
Comment cela s'explique?
C'est la race, et après c'est surtout la nourriture.
Ah là, ils se disputent un peu?
Eh oui, ils ont faim, hein.
Quel est l'effet de la nourriture, justement, sur la constitution de ce gras?
C'est des cochons qui font 60 kilos. Si tu commences à lui donner que de l'aliment, tu vas avoir une viande qui est sèche. Tandis que là, on est en finition orge, ça veut dire que la viande va être plus tendre. Tu t'aperçois ce qu'ont mangé les cochons. Mais on ne commence pas à charcuter tant qu'ils n'ont pas mangé de châtaigne.
Parce que la châtaigne, justement, qu'est-ce qu'elle apporte à la qualité de la viande et du gras?
Ça te donne un petit goût de noisette et de douceur. Les autres jambons sont finis au gland ou aux céréales, tandis que nous, c'est fini à la châtaigne et ça donne de la douceur.
Ça donne de la suavité, de la rondeur.
Voilà, de la rondeur.
Donc là, c'est pour ça qu'ils sont vraiment installés dans une châtaigneraie. On voit ces châtaigniers en feuilles, qui sont d'ailleurs multicentenaires, non?
Ouais.
Châtaigneraie historique?
Très historique, ouais. Elle a minimum 200 ou 300 ans.
Alors là, on arrive au village?
Ouais, on arrive au village. Et là, on va aller dans l'atelier.
Parce que tu vas me présenter ton gendre.
Robin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez ensemble?
Oui.
Gendre et beau-papa?
Oui. C'est l'atelier de découpe ici.
Et les règles de la transformation, c'est que là aussi, on est totalement artisanal.
Ah oui, là oui, oui.
Pas de produits chimiques dans la transformation?
Non, zéro.
Sel, poivre?
Ah oui, sel, poivre. Après, on fait des pâtés à la Roie Baronne. Ça ressemble au thym sauvage, où on met de la noisette, de la myrte, du genièvre. On va descendre dans la cave, c'est la pièce d'affinage.
Pièce d'affinage.
Voilà. Là, vous avez la pièce d'affinage. Sous terre, quasiment, on est dans la roche. Vous voyez là, on a mis du gravier au sol pour justement tenir un peu d'humidité.
Il y a un parfum extraordinaire là dans cette pièce. Là, ouais. Comment on peut la définir, cette odeur?
On sent vraiment un peu la châtaigne, un peu la noisette, le poivre un peu, parce que bon, c'est ce qu'on recouvre les jambons de poivre. Ils sont rangés par ordre, ouais. Plus c'est loin, plus c'est vieux, plus c'est prêt, après on change.
Si tu veux, c'est que là, le jour où on a fait l'atelier, on a essayé de garder un rocher, tu vois, et parce que l'humidité du rocher va se remettre sur la charcuterie, tu vas même te retrouver des goûts de champignons. Quand tu entames un jambon, tu vas voir que aussi bien le gras que le maigre, tu auras des goûts ancestrales. Mais ça vient des caves. C'est pour ça qu'on laisse affiner minimum 24 mois. Plus tu laisses affiner, meilleur c'est. Tu vois, le gras chez nous, il n'est pas jaune. S'il est jaune, ça veut dire que la nourriture n'est pas bonne. Le cochon a mangé une mauvaise nourriture.
Donc le gras, c'est la race, l'alimentation, et c'est cette étape d'affinage.
Voilà, parce qu'il s'affine. Et c'est là qu'il a, il a plus d'arômes. C'est pour ça, tous les produits, quand c'est sec, systématiquement, ils descendent dans la cave.
On va goûter ?
Oui.
Waouh ! On a une énorme planche avec, en gros, presque tout ce que le cochon peut nous offrir.
Quasiment tout, oui.
Il est vrai qu'à la vue comme ça de cette planche avec tous les morceaux du cochon découpés, charcutés, il y a beaucoup, beaucoup de blanc.
Oui.
Presque, on va pas dire presque autant de blanc que de rouge.
Si vous enlevez le figaté, regardez la planche, vous voyez plus de blanc que de rouge quasiment.
Ça, c'est la caractéristique du porc noustral.
Porc noustral, voilà.
D'intégrer du persimmon, du gras à l'intérieur du maigre.
Voilà, c'est ça, c'est la race. Ça, c'est la race. Là, tu t'aperçois que c'est la race.
Comment vous l'expliquez, cette espèce de méfiance de gens qui vont prendre un morceau de l'onze ou qui vont enlever la partie blanche en disant ah non, là, c'est, cette pièce, elle est beaucoup trop grasse. Ça vous inspire quoi?
Au jour d'aujourd'hui, les gens voient le gras, ils pensent de suite au cholestérol. Ils pensent toujours à prendre des kilos. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre charcuterie, notre gras ne fait pas mal. Il n'y a pas de cholestérol. Tandis que si tu manges du gras d'une autre charcuterie, de la charcuterie française, d'une côtelette de mouton, une entrecôte, systématiquement, tu as du cholestérol. Mais notre charcuterie, si tu la manges raisonnablement, tu n'as pas de cholestérol.
Par quel morceau il faudrait commencer? Il faut commencer par le jambon.
Toutes les dégustations que je fais, saucisson, londe, cope.
Le gras, quand il commence à être à température ambiante, être un peu chambré, c'est là où il révèle tous ses arômes.
Quand la charcuterie transpire, vous la sortez du sous-vide ou vous l'entamez un peu, vous la laissez transpirer un peu, vous allez voir que là, c'est le top. Ça va donner tous ses arômes.
Et là encore, cette charcuterie, elle a un parfum très suave, très doux. Alors là, j'ai goûté cope, londe, saucisson. Le gras du londe, il est vraiment étonnant. Hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de longueur, des notes beurrées et beaucoup de sapidité en fait.
Alors ça, c'est la houlette, c'est la joue du porc.
La houlette là, c'est extraordinaire en termes de goût.
Ouais, mais elle a 2 ans. Ouais.
Et pourtant là, il y a peut-être 10 ou 20% de maigre seulement. La joue de cochon de 2 ans, ouais. C'est carrément une friandise.
C'est comme si tu prenais un bonbon. Tu mets un bonbon dans la bouche, c'est la même chose.
Mais c'est une pièce, là, c'est une pièce extraordinaire. Je reprends un morceau. Au nord de la Corse, on appelle ça boulagne, c'est ça?
Boulagne, oui. Boulette dans le sud et boulagne dans la haute Corse.
Une charcuterie parfaite. Le vin d'Antoine Arène. Et la vue, là.
Imprenable.
Merci, Robin. La relève est bien en place?
Oui.
Saveur savante. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Elles font envie, ces salaisons signées Félix Thor à Coutoli, en Corse du Sud.
Mmh, elles sont vraiment délicieuses à l'oreille et certainement à la bouche.
Que se passe-t-il justement, Gabriel Lépouzé, quand on salaisonne, quand on affine du gras? Pourquoi est-il besoin de l'affiner, ce gras? Ses arômes, son goût évolue?
Alors d'abord, la salaison, c'est un agent de conservation qui va participer à la conservation de la viande. Mais derrière ça, l'affinage, donc c'est ce travail de maturation un peu de la salaison, c'est une transformation qui se passe par fermentation et qui va permettre de transformer la matière avec l'apparition de certains composés qui vont être aromatiques. Notamment, les acides gras vont être brisés par sous l'action de certaines bactéries qui vont agir sur les acides gras. On parle de lipolyse. Ces bactéries, on les connaît, c'est souvent des bactéries qu'on retrouve aussi dans d'autres produits fermentaires, c'est des lactobacilles, c'est des streptocoques, qui vont libérer des acides gras volatiles, qui vont donner ces arômes un peu fromagés, un peu doux, un peu caressants. Et toute cette aromatique délicieuse et séduisante provient de l'action des bactéries. Et j'aimerais justement vous faire sentir une odeur typique de la fermentation des produits gras.
Vous me tendez une toute petite fiole. avec un liquide qui donne aucune indication puisqu'il est transparent. C'est agréable. C'est doux et suave.
Dans quel aliment on le retrouve ?
Mais je trouve qu'il a plutôt du côté de la pâtisserie ou de la confiserie.
Ah, on est vraiment pas loin là. En fait, l'odeur que vous sentez, c'est une molécule qui s'appelle le diacétyl. Et c'est une molécule qui est produite par des bactéries pendant le processus de fabrication du beurre.
Du beurre ! Ah, et oui, on, beurre frais !
C'est l'odeur de beurre frais, voilà. C'est une odeur qu'on retrouve beaucoup dans la brioche, dans la crème, dans la viennoiserie, bien sûr, tous nos croissants, et puis dans la pâtisserie. C'est une odeur qui nous est très familière et qui, en fait, est là pour nous rappeler que le beurre est un produit fermenté. Le beurre, même s'il a l'air inerte comme ça, c'est un produit qui est issu de la transformation d'une crème. À l'aide de ferments lactiques, on retrouve ici nos bactéries lactococcus, par exemple, qui vont, au cours de cette fermentation, générer des composés, ce composé de diacétyl, qui va être ensuite concentré par le beurre, puisque les acides gras, on le répète, sont capables de piéger des molécules aromatiques. Et tous les produits à base de beurre, je pense par exemple même au caramel au beurre salé, le caramel breton.
Je pensais à ça, justement.
Il a cette odeur de diacétyl qui est intime.
Quand on évoque l'évolution aromatique, gustative d'une matière grasse, de temps en temps, on parle de rance. Et là, pour le coup, c'est plutôt considéré comme un défaut, une espèce de mauvais goût qui résulterait de la dégradation d'une matière grasse. Comment vous expliquez l'apparition de ce goût rance et comment on peut le définir ?
Alors, ce goût rance, il vient de réactions chimiques des acides gras avec l'oxygène de l'air. Et quel acide gras s'oxyde plus que les autres ? C'est plutôt ceux des huiles. C'est pour ça que beaucoup des huiles, on va les protéger de la lumière, on va les mettre dans des bouteilles qui sont relativement opaques et on va les mettre dans une bouteille justement pour qu'elles soient à l'abri de l'air. Mais le rancissement, ça peut aussi s'appliquer à des graisses animales. Une graisse de couverture, par exemple, d'une salaison, ça peut être sur à la surface d'un jambon, par exemple. Le gras devient rance. Bah parce que justement, il n'est pas protégé de l'oxygène.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche toda España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti.
Eso es.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Y yo lo hice por ti.
Lo hice por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti, yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando. Que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti.
Eso.
Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden.
C'est Tangana avec le titre Un Veneno, picoré sur la playlist de l'été.
Saveur savante sur France Inter.
Gabriel l'épousé. Neurobiologiste à l'Institut Pasteur.
La plupart du temps, le gras existe sous forme d'une molécule qu'on appelle un triglycéride d'acide gras. Un triglycéride d'acide gras, ça ressemble vraiment à une fourchette avec trois pics. Et derrière cette notion d'acide gras, souvent, on colle l'adjectif saturé ou insaturé. Ça, vous allez le retrouver aussi beaucoup sur des contre-étiquettes. Un acide gras saturé, c'est un acide gras qui va avoir une chaîne de carbone très allongée, très droite, bien alignée. Et comme ces chaînes sont bien droites, d'ailleurs, on peut bien les ranger, on peut bien les aligner comme un peu comme des petits micados. Et quand les choses s'empilent très bien en chimie, ça a tendance à cristalliser, à devenir solide. Et donc, à température ambiante, le gras qui est composé d'acides gras saturés est solide. On parle souvent de graisse dans le langage commun. Si j'ai un corps gras qui est solide, il est plutôt riche en acides gras saturés. Ce sont les graisses animales, par exemple. Alors que si la graisse est plutôt liquide, on va parler plutôt d'une huile, bah elle est plutôt riche en acides gras insaturés. Une huile végétale, par exemple, c'est 85% d'acides gras insaturés. Alors qu'une graisse animale, prenons une graisse de bœuf, par exemple, c'est au moins 50% d'acides gras saturés.
Prenons justement quelques exemples de matières grasses pour comprendre que les acides gras saturés ou insaturés influent sur leur texture, finalement, sur leur fluidité.
Je vous fais un petit questionnaire, un petit quiz, François-Régis. Le beurre, c'est un objet solide. Donc, plutôt acide gras saturé ou insaturé ?
Saturé.
Plutôt saturé, exactement. On est à hauteur de 60% d'acide gras saturé. Le beurre de cacao, qu'on trouve parfois manifestement plutôt sous la forme de chocolat blanc, par exemple.
Alors là, c'est une matière grasse végétale, mais c'est un peu la texture du beurre, donc je dirais qu'il y a pas mal d'acide gras saturé.
Exactement, on a quelque chose qui est autour de 60%. Et si je prends l'huile d'olive ? On a quelque chose qui est plutôt liquide.
Plutôt insaturé, par
plutôt insaturé. On a autour de 13% d'acide gras saturé seulement. Donc ça veut dire 87% d'acide gras insaturé. Et puis comme ça, on peut se promener, attention question piège, ce qu'on appelle la graisse de coco, l'huile de coco, qui est plutôt manifestement à température ambiante quelque chose qui est solide, très blanc, blanchâtre, un peu opalescent, plutôt insaturé ou saturé ?
Du coup, plutôt saturé.
Exactement. L'acide gras, même si c'est végétal, la graisse de coco, l'huile de coco, qu'on utilise parfois en cuisine, elle est très riche en acide gras saturé. On est à 86%.
Mais justement, quand on fait chauffer cette graisse de coco, en l'occurrence, elle se liquéfie, elle fond.
Tout à fait. Et là, c'est là qu'on mesure aussi l'importance de cette température. Là, tous les chiffres qu'on a abordés ensemble, c'est à température ambiante. Mais il y a un moment où cette matière qui est solide peut passer à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la température de fusion. Pour le beurre, par exemple, c'est 30 degrés. Ça, on voit bien. Le beurre, si on le laisse à température ambiante l'été sur le coin d'une fenêtre un peu ensoleillée, ça va fondre. Autre exemple extrêmement important dans la gastronomie, c'est le beurre de cacao. Lui, il a une température de fusion très intéressante qui est autour de 34-35 degrés. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça correspond exactement à la température dans notre bouche. Donc le chocolat va fondre uniquement dans la bouche et pas dans la main. Et cette graisse de cacao, justement, comme elle va fondre dans la bouche, va faire que au moment où le chocolat va fondre, il va y avoir une petite réaction endothermique. Le chocolat va prendre de l'énergie autour de lui pour essayer de fondre. Et on va avoir une petite sensation un peu de fraîcheur en bouche. C'est ça qu'on aime aussi dans le chocolat. C'est cette impression de fraîcheur qui est induite par la fusion du chocolat.
Donc le beurre de cacao contenu dans une tablette de chocolat fond à la température de notre corps.
Exactement. C'est pour ça qu'on l'aime autant. Ce chocolat, il a un lien intime parce que les deux fonctionnent et se transforment à 37 degrés.
Du gras qui fond dans la bouche, il y en a au menu du repas que Gervaise, l'héroïne de l'Assommoir, offre à ses amis et voisins. Le clou du banquet qu'elle organise, c'est cette grosse oie rôtie, dégoulinante de graisse, sur laquelle se ruent les convives. Une scène de table signée Émile Zola, qui en dit long sur les fantasmes gourmands du petit peuple parisien au XIXe siècle. C'est un texte interprété par Emmanuel Gory.
Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle, tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. On se la montrait avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin, quelle dame, quelle cuisse, et quel ventre, et c'est pas engraissé à lécher les murs, celle-là, dit Boche. Alors on entra dans des détails sur la bête. Gervaise précisa des faits. La bête était la plus belle pièce qu'elle eût trouvée chez le marchand de volailles du faubourg Poissonnière. Elle pesait 12 livres et demi à la balance du charbonnier, on avait brûlé un boisseau de charbon pour la faire cuire, et elle venait de rendre 3 bols de graisse. L'oie était découpée. Le sergent de ville, après avoir laissé la société admirer le bonnet d'évêque pendant quelques minutes, venait d'abattre les morceaux et de les ranger autour du plat. On pouvait se servir, mais les dames, qui dégrafaient leurs robes, se plaignaient de la chaleur. « Rien qu'à attendre et à regarder découper la bête, » disait ce farceur de Boche, « ça lui avait fait descendre la blanquette et l'épiner dans les mollets. » Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette, c'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassé sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi, gloutonne comme une chatte.
Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à la voir toute rose de nourriture. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que Maman Coupeau, qui adorait le coup, en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau, quand elle était rissolée. Et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie. Si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères, en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'elle en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir trop mangé d'oie rôtie, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que l'oie avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, l'oie guérissait les maladies de rate.
Émile Zola, L'Assommoir, 1876.
France Inter, saveur savante. François-Régis Gaudry.
Quand on déguste un produit gras, c'est intéressant de voir, par exemple, les dégustateurs experts d'huile d'olive, ils vont s'attacher à regarder l'aromatique, l'aspect gustatif, les saveurs, l'amertume, et puis surtout, et avant tout, la texture, le toucher de l'huile, quelle viscosité, quelle fluidité elle va avoir.
Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur.
Même idée pour le beurre, si vous prenez du beurre, vous allez avoir une aromatique du beurre, certaines saveurs, un peu sucrées, un peu salées, et puis encore une fois cette texture, ce côté soyeux, douce, très lisse, qui est vraiment le côté appétant du beurre, le côté qu'on aime. Donc le gras, quand on le goûte, il faut vraiment penser que le gras c'est un objet assez multisensoriel. Il parle à plusieurs de nos sens, mais en particulier beaucoup à notre sens du toucher.
Ah, c'est donc une sensation tactile le gras, cet effet de... d'envelopper le palais, de le tapisser, de créer une espèce de film qui d'ailleurs souvent est agréable.
Voilà, la caractéristique du gras, c'est cette texture et ce film de gras qu'il va y avoir, qui est lisse, très souple, fluide, et qui en fait ressemble à la texture de notre salive. C'est pour ça qu'on l'aime, parce que c'est quelque chose qui est très confortable, qui nous met dans une situation de confort en bouche.
La bouche est très développée en matière de toucher, en matière de sensations tactiles.
Alors la bouche, c'est probablement notre organe du toucher le plus sensible. Si on regarde l'ensemble de nos capteurs du toucher qu'on a à la surface de nos doigts, de notre peau, on se rend compte que 20% de l'ensemble de nos capteurs sont concentrés uniquement dans notre bouche. 20% de nos capteurs.
C'est énorme.
C'est énorme, ça fait de la bouche l'organe le plus sensible en termes de densité de capteurs, et donc il va avoir une résolution en termes de toucher qui est extrêmement fine. Qu'est-ce qu'il va sentir ? Il va sentir déjà... la consistance. Est-ce que l'objet a de la résistance? On va toucher aussi la texture de surface. Est-ce que l'objet est plutôt soyeux, plutôt rêche, plutôt velouté? Notre langue va toucher notre palais et va se frotter dessus pour sentir la granulométrie de l'objet. Bah, dans mon palais, ma langue va être capable de sentir si j'ai des grains qui sont très fins ou très grossiers. Ça va vraiment très loin en termes de résolution. Il y a une expérience qui a été faite avec des particules inclus dans du chocolat. On voit que notre bouche est capable de discriminer entre deux chocolats qui diffèrent de taille de particules de la taille de 5 microns. Ça veut dire que notre bouche est capable de différencier des objets qui sont de taille différente seulement de 5 microns. C'est vraiment unique.
C'est une sacrée machine.
C'est une sacrée machine et un sacré capteur. Oui.
Entre goût et dégoût, le gras fait tache d'huile dans la langue française. Et plusieurs mots et expressions du dictionnaire trahissent notre rapport ambivalent au gras. Notre linguiste Aurore Vincenti les a tous sur le bout de la langue.
Je vous l'avais dit, c'est un gros lard.
Gras.
Mais quel enfant répugnant !
En français, au premier abord, le gras est réjouissant. Il est signe d'abondance, de fertilité et d'opulence. Pendant les vacances, on fait la grasse mat. Grasse parce que le temps passé au lit est plus long, plus ample. Pareil, lorsque la vie se montre généreuse et que l'argent coule à flot, on dit depuis le XVIIe siècle qu'on fait ses choux gras, donc qu'on a fait de grands profits. On sait bien qu'un peu de lard dans la cuisson du chou le rend plus plantureux. Un peu, si vous voulez, comme le beurre dans les épinards. Cette part de gras qu'on ajoute, c'est le luxe qu'on s'accorde. Alors que ça passe par l'image du portefeuille plein et dodu ou de la matinée sans travail, à chaque fois, le gras présage richesse et plaisir. Jusqu'à graisser la patte de quelqu'un et donc lui glisser en douce un petit ou un gros bifton pour obtenir, par exemple, une faveur. Et on constate que quand on emploie cet adjectif dans une expression qui touche à la cuisine, comme les choux gras ou les jours gras, pensez mardi gras, là aussi jour de joie, jour de carnaval, eh bien, c'est le signe qu'on consomme de la chair ou de la graisse animale. Les jours gras, par opposition aux jours maigres, sont des jours où, dans la tradition catholique, on mange de la viande. Et si aujourd'hui, on n'accorde plus tout à fait la même valeur à la consommation de chair animale, c'était auparavant une marque d'abondance et de richesse. C'est important pour comprendre notre vision contemporaine du gras qu'il est associé à cette chair animale, tant et si bien que lorsqu'il concerne la chair humaine, rien ne va plus. Et c'est là que le mot gras a son revers de la médaille. Quand il touche au corps humain, et donc ça passe aussi par la nourriture, il est souvent très décrié. À tel point que certains vont faire preuve de grossophobie, une peur et une haine du corps gros et gras. On va donc attaquer le suif, le lard, la panne, le sein doux, la crème, l'huile et le beurre, le graillon, le graisseron, le rayon, sarriette et le graton. Autant de mets, de textures et de saveurs qu'on tient pour responsable de l'épaisseur du corps. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le mot gras a une origine moins lipidique ou graisseuse qu'épaisse. Il vient du latin crassus, qui signifie épais. Et si vous écoutez bien, crassus avec un C vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il ressemble diablement au français crasse, crasseux, crado. Et pour cause, crassus est bien l'ancêtre latin de crasse, la saleté. D'une seule origine, crassus, deux mots, graisse et crasse. Et c'est fort triste, mais ça en dit déjà long sur la perception négative qu'on a du gras. C'est intéressant de se pencher sur ce qui fait que jusque dans la langue, on associe le gras, l'épais, le gros, le brut à des choses négatives, alors que le maigre, le fin et le raffiné sont eux valorisés. Vous remarquerez que c'est bien l'opposition qu'on établit entre la grossièreté et la politesse. Il y a sur la question du gras un enjeu social, un enjeu de classe, avec en filigrane de tout ce vocabulaire, l'idée que l'élite est associée au raffinement, alors que le peuple n'est que bassesse et grossièreté. Je poursuis l'argument un peu plus loin. Du côté du peuple, on va mettre tout ce qui a trait au matériel, au corps, à la chair. Et du côté de l'élite, l'esprit, la subtilité, la finesse, la légèreté. Et ces idées reçues sont tenaces. Le gras est bien ce qui nous ramène à la chair. Et pour parvenir à le voir d'un bon œil, on aurait sans doute besoin de se mettre à valoriser le corps autant que l'esprit. Alors voilà une proposition. Envisager le gras dans la langue, c'est d'abord une lutte contre des stéréotypes et ensuite, qu'on le veuille ou non, une lutte sociale. Et je propose pour cela d'adopter le parler gras ou grasseyant, qu'on pourrait nommer grivois et grillard, graveleux, polisson ou obscène, tout simplement cochon ou encore gaillard, ou bien même gaulois. On pourrait adopter un parler typiquement rablaisien, Rabelais, vous savez, auteur de Gargantua et de Pantagruel, ces géants au parler cru et à la gorge gourmande. Il employait cette locution de haute graisse. D'abord pour désigner des moutons bien en chair, sous-entendu de qualité, des moutons de haute graisse. Ensuite, de haute graisse a signifié au figuré d'une gaieté truculente, un peu grivoise. On pourrait donc dire une blague de haute graisse ou une histoire de haute graisse. Celle qui ne fait pas l'économie des gros mots et fait qu'on se tape sur les cuisses en éclatant de rire. C'est pas très aristo, mais c'est grassement joyeux.
Saveur savante sur France Inter.
C'est une recette du pays. Hein ? Ça s'appelle la fougue.
La fougue.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là ?
C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras, et puis l'alcool de bois, pendant 2-3 saisons. Puis en liquène aussi. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé.
C'est délicieux. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu.
Puis celle-là, elle a au moins 3 ans d'âge. Je vais vous dire, c'est la bonne.
Quand la troupe du Splendide se frottait aux frissons gras et exotiques de la fougne. Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte, 1979.
Gabriel Lépouzé, on vit depuis quelques années ce qu'on pourrait appeler une période, un phénomène de grassophobie. Il faut absolument bouter le gras hors de notre alimentation. On verra effectivement que la consommation excessive de gras, et en particulier de certains gras, pose problème. Mais on en aurait presque oublié qu'il faut manger du gras au quotidien.
Le gras, c'est important. Le gras, il faut se rendre compte que c'est un élément constitutif de notre corps. Et en plus de ça, les mammifères auxquels on appartient ne peuvent pas fabriquer certains acides gras insaturés, qui sont pourtant essentiels à la constitution de nos cellules et en particulier de certains organes. Ces acides gras insaturés, on va revenir dessus, mais vous avez parlé d'oméga 3, d'oméga 6, vous avez lu, entendu parler de ces noms de molécules. Ça correspond à des molécules, voilà, que le corps a besoin de chercher dans sa nourriture qui vont être utilisés pour fabriquer plein de composants de nos cellules et de certains organes qui ont beaucoup de gras. Je pense particulièrement à un organe qui aime beaucoup le gras, qui est beaucoup constitué de gras, c'est le cerveau. Le cerveau, beaucoup de lipides, on a presque 20% de notre cerveau qui est constitué de lipides.
Le cerveau est donc un organe de notre corps qui est gras.
Derrière ça se cache l'idée que notre corps, comme il est fait de gras, bah, il faut l'aider à retrouver des briques, des éléments pour le reconstituer. Et manger et s'abstenir de manger du gras, c'est aller à l'encontre de la physiologie même du corps. Le gras, en plus, il a d'autres vertus, c'est qu'il transporte aussi de nombreuses vitamines. Il y a des vitamines qui ne sont solubles que dans le gras. Vitamine A, vitamine E, vitamine B, vitamine K, qui sont aussi essentielles pour notre corps, en particulier pendant notre phase de croissance. Et donc, le gras va apporter et transporter ces vitamines. Et puis, le gras, et c'est là où, à mon avis, on a une relation assez intime avec le gras, c'est que le gras, c'est une source d'énergie très importante. Et l'homme a besoin d'énergie, en particulier justement notre cerveau, ce fameux cerveau qui est à la fois gras, mais qui en plus nous prend un peu en otage parce que c'est un organe qui consomme beaucoup d'énergie. Rendez-vous compte, le cerveau donc qui fait 1,5 kg dans notre petite tête, consomme 20%, un cinquième de notre énergie. D'où l'importance du gras dans notre alimentation et en particulier dans celle du bébé, dans le lait. Pourquoi le lait est gras finalement et pourquoi il y a beaucoup de gras dans le lait et pourquoi on l'aime quand on est enfant? Ben, c'est parce qu'on en a besoin pour apporter des calories au fonctionnement de notre cerveau.
Parmi les nombreuses fonctions du gras en cuisine, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, c'est l'émulsion. En gros, on pourrait prendre l'exemple de la mayonnaise qu'on consomme beaucoup à toutes les saisons. Racontez-nous ce qui se passe sous le microscope. Pour une émulsion, quelle est l'explication physico-chimique que l'on pourrait en donner?
L'émulsion, l'idée, c'est d'essayer de mélanger de l'huile et de l'eau, alors que d'habitude, justement, ils peuvent pas se mélanger. Et pour rassembler de l'huile et de l'eau ensemble, on utilise un émulsifiant. C'est une molécule qui a à la fois un côté qui est compatible avec l'eau et une autre partie de la molécule qui est compatible avec l'huile.
Alors, donnez-nous un exemple avec des ingrédients. Une mayonnaise, par exemple, qui est vraiment cette émulsion emblématique.
Donc, dans une mayonnaise, on va retrouver de l'huile végétale, cet agent émulsifiant qu'on va aller chercher dans le jaune d'œuf. Et dans le jaune d'œuf, le composé qui nous intéresse, c'est une molécule qui s'appelle la lécithine. Mmh. Dans le jaune, on va avoir aussi d'autres agents, comme de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le jaune d'œuf. Et puis, on va rajouter encore un peu d'eau avec le vinaigre.
Et on obtient justement cette texture très crémeuse.
Voilà, alors les
émulsions... C'est la mayonnaise qui prend du volume.
Mais si je fais une vinaigrette et que j'arrive à mélanger tout ça avec de la moutarde, par exemple, je fais aussi une émulsion où là, la part d'eau par rapport à la part d'huile est pas la même. Donc la texture va pas être tout à fait la même.
Et l'aïoli, alors, vous connaissez cette préparation provençale?
L'aïoli, c'est délicieux.
Vous avez déjà réussi à faire un aïoli?
C'est très difficile. Moi, chaque fois, ça rate.
L'aïoli qui rate, c'est un grand moment de solitude que tout cuisinier provençal a connu au moins une fois dans sa vie. Pour comprendre comment on peut préparer une sauce crémeuse avec juste de l'ail et de l'huile d'olive, je rends visite à un grand ami de l'aïoli. Il s'appelle Emmanuel Perraudin, il est chef autodidacte et il a jeté l'ancre à Marseille. Pilon à la main, il me révèle tous les secrets de l'aïoli.
Quand je suis arrivé ici, moi je n'aimais ni l'ail ni l'huile d'olive. Je viens d'une cuisine du beurre et je suis vraiment tombé dans le mortier, justement. Et l'aïoli, c'est devenu une vraie passion. Comme tous les goûts du Sud, d'ailleurs.
Comment s'est passé le premier contact avec cette préparation?
C'était au restaurant Perron, le premier restaurant dans lequel j'ai bossé. Mon chef, à l'époque, s'appelait Errico Delgado, et il me demande de monter un aïoli. Donc, je monte l'aïoli. J'ai goûté, j'ai trouvé ça très bien, très équilibré. Il est venu, il a goûté, il m'a dit « C'est un aïoli de Parisien. » Et donc, j'ai cru à un moment donné qu'il fallait mettre plus d'ail que ce que j'en avais mis, ce qui est faux. Il ne faut pas mettre trop d'ail, en fait. Il faut toujours être attentif à ça. D'ailleurs, longtemps, on a dit que l'ail, c'était la vanille de Marseille. Cet aïoli-là, en fait, il s'inscrit profondément dans les racines méditerranéennes du territoire. Déjà, on peut décortiquer son nom, de l'ail et de l'huile. Aïe, oli. La première fois qu'on en voit trace dans un écrit, c'est aux alentours de 1720, me semble-t-il, dans le dictionnaire franco-provençal de Puget. Et puis après, il y aura quelques poèmes autour de ça. Enfin, Minerve versait l'huile et Vénus tenait le pilon. Mais aujourd'hui, on pense la Méditerranée comme étant totalement tournée autour de l'huile d'olive, mais tout ça, c'est un mythe extrêmement récent. Il y a eu un grand combat entre le saindoux, le beurre et l'huile d'olive, et que c'est l'huile d'olive qui a gagné, mais très récemment, finalement. Je pense que c'est lié aussi au développement du mythe du régime crétois. Et puis, quand tu t'intéresses même à l'huile d'olive aujourd'hui, tu vois toutes les différences qu'il peut y avoir, enfin, toutes les intensités aromatiques, les profondeurs, les niveaux d'ardence, et les niveaux d'amertume, tout. Enfin, il y a des choses qui sont mais d'une beauté, mais folle, en fait.
Et à partir de quand alors cet aïoli par exemple est associé à ce fameux plat qu'on appelle aujourd'hui grand aïoli, c'est-à-dire véritablement le statut d'une sauce condiment qui vient apporter du relief à des légumes, à des produits de la mer?
Oui, ça c'est une vraie histoire du 19e siècle en fait, le grand aïoli. C'est une façon de célébrer. Ce qui fait partie de ces jolis plats qui sont à la fois des plats du cabanon qu'on va retrouver dans toutes les couches de la société parce qu'ils racontent quelque chose. T'es presque après un aïoli un dimanche midi ou après un aïoli, c'est compliqué d'aller travailler par exemple. Tu sais que tu vas être un peu la meilleure des choses à faire après l'aïoli, c'est d'aller te mettre sous un arbre et d'aller faire la sieste. Parce que quand tu commences à l'avoir mangé, en fait, t'as pas envie. Moi, j'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est une certitude.
C'est addictif.
C'est très addictif. Je pense que le gras joue un rôle très important. En fait, là-dedans, c'est un vrai véhicule en fait de cette vanille. En fait, tu vois, c'est comme l'ail aussi, c'est entêtant. Parce que en fait, quand tu fais un aïoli, tu retrouves des odeurs que tu peux retrouver en fait lors des ébats. Clairement. Des odeurs de sueur, des odeurs animales, même des odeurs de stupre, en fait. Cette charge érotique, elle est inscrite à la fois dans le goût et elle est inscrite également dans le geste qui est fait, en fait.
On est devant une table?
Devant moi, on a deux outils de toute antiquité, un mortier et un pilon. Alors, ici, le mortier est en marbre, mais il pourrait être en bois. Et le pilon est, quoi qu'il arrive, toujours en bois. On pourrait monter aussi un aïoli quasiment à la fourchette et dans un saladier en inox. C'est juste une question de geste. C'est finalement assez rare, les gestes qui peuvent se transmettre assez facilement de génération en génération, se préserver. Moi, j'aime bien en tout cas le faire dans un mortier en pierre.
On exclut d'emblée tout appareil électrique, mixeur et autres?
Alors, naturellement, on exclut ça. Mais si on a que ça pour faire, on utilise ça. Mais c'est mieux de le faire à la main. Parce qu'il y a un plaisir réel, en fait. Avec juste de l'ail et de l'huile d'olive, en fait, on peut faire de la magie. Et ça, c'est fantastique. Moi, je trouve ça magnifique.
Très bien. Alors, il faut logiquement assez peu d'ingrédients, j'imagine, pour faire cette aïoli traditionnelle.
Il en faut trois. De l'ail, du sel et de l'huile d'olive. L'aïoli, en fait, c'est une émulsion. C'est-à-dire que c'est la possibilité de mélanger deux liquides qui ne se mélangent pas normalement. Et en fait, l'aïoli, c'est une dispersion de l'huile dans l'eau. Et ce qui est très drôle, en fait, dans l'histoire, si jamais on doit faire un petit parallèle avec le beurre, c'est que le beurre, c'est l'inverse. Le beurre, c'est une dispersion de l'eau dans l'huile, en fait.
Ça veut dire qu'au départ, si on ne cède pas d'un jaune d'œuf, et j'imagine qu'on trouvera certains Marseillais conservateurs pour exclure d'emblée le jaune d'œuf,
oui.
Au départ, c'est le gras de l'huile d'olive et l'eau contenue dans la gousse d'ail,
oui,
qui vont former cette émulsion.
Oui.
Donc le jus d'ail finalement.
Mais c'est pas que l'eau dans le jus d'ail, c'est aussi les propriétés tensioactives de l'ail. Il faut ces trois éléments-là en fait.
Comment tu vas t'y prendre?
Alors d'abord on va dégermer l'ail.
Combien de gousses?
On va dire qu'on fait pour trois personnes, du coup je prends trois gousses. Hein. Hop, je sale un peu. Et après c'est le premier geste. Alors attention, ça va. Il faut piler.
Première charge érotique?
Oui, c'est exactement ça.
C'est avec la bouse de partout?
Oui, c'est la première charge. On pile.
Ah là, on commence à obtenir oui. une texture de purée.
Une texture de purée, on voit bien que l'eau commence à sortir.
Et les parfums, en effet, très, très, très prenants qui s'échappent du mortier.
Ça commence à... Ça t'enveloppe, en fait. Tu vois, ça t'enveloppe. Alors, quelques gouttes d'abord. Vraiment goutte à goutte, hein. Le goutte à goutte, c'est vraiment très important. Ça permet de la bonne dispersion en fait du gras, de l'huile en fait.
Donc, une bouteille d'huile d'olive dans la main gauche et dans la main droite, un mouvement circulaire avec le pilon.
Oui. Alors évidemment, tu l'entends. Là, quand on reparle d'une charge érotique, je suis.
Il y a un bruit mouillé, d'accord.
Il y a un bruit mouillé. Ça prend là. Oh, ça prend, punaise.
Et ça prend grave.
Dans un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maurice Brun, peut-être un des plus beaux sur la cuisine provençale, il dit bien qu'il faut toujours être extrêmement précautionneux et attentif. C'est-à-dire que c'est quand on croit qu'il est en train de devenir extrêmement ferme, c'est là qu'il risque de se déliter. Et à ce moment-là, normalement, on est censé rajouter quelques gouttes d'eau. C'est toujours ces particules tensioactives qui permettent à l'huile de se disperser dans l'eau.
Petite goutte d'eau à une température précise?
La température joue pour l'œuf, a priori, mais ne joue pas pour l'eau qu'on va y mettre. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit chaude, hein, c'est tout.
Par contre, on a le droit de s'arrêter.
Oui, on a le droit de s'arrêter.
Parce qu'il avait une belle allure, j'ai peur qu'il retombe.
Oui, t'as raison.
Je voudrais pas être trop optimiste, mais j'ai l'impression qu'il prend.
Non, mais il prend bien, hein.
Il y a une émulsion qui se forme autour des parois, on obtient véritablement une texture crémeuse.
Oui, très crémeuse. c'est deux gestes simples. Le premier, on pile et ensuite, on tourne.
Donc, huile d'olive et huile de coude.
Et huile d'olive et huile de coude.
D'ailleurs, à l'évolution du bruit, on sent en fait la transformation de la texture.
Exactement. Ça se densifie. C'est là que j'ai peur, vraiment j'ai peur, mon Dieu.
C'est gagné là.
Ah, oui, c'est beau. Techniquement, en fait, il est bon, parce qu'on dit en Provence que quand le mortier tient droit, c'est que l'aioli est prêt. Il faut jamais qu'il soit trop pris. D'ailleurs, si jamais un aioli est trop pris, déjà, tu peux avoir l'assurance que, quoi qu'il arrive, il a été fait à la moutarde.
Donc, on ne doit pas obtenir tout à fait une texture de mayonnaise, en réalité. On a quelque chose de plus onctueux et de plus crémeux.
De beaucoup plus onctueux. Cet aioli, en fait, il marque vraiment, en fait, il a une vraie importance sur le territoire, notamment par la puissance symbolique, en fait, qui avait été décelée par Frédéric Mistral. Il avait dit que c'était un vrai signe de fraternité, en fait, qu'il n'était pas possible de partager un aioli sans être finalement devenir frère. Parce que justement, ça permet, c'est quelque chose qui lisse, qui est a priori qu'on ne peut pas lier. C'est-à-dire l'eau et l'huile, finalement. C'est ça. Et on arrive finalement à le mêler et à en faire quelque chose qui réunit tout le monde. Et c'est pas rien, cette histoire-là. Voilà, mais c'est bien.
Superbe. Ouais. Finito.
Finito. Alors. Là, j'aime vraiment bien. Faut goûter, hein.
Top.
On est bien.
Ah ouais.
On est bien.
Là, il donne de la voix, mais c'est pas du tout rédhibitoire.
Ouais.
Un aioli qui a du tempérament.
Un aioli qui a du tempérament.
Comment il va finir, cet aioli?
Avec du pain et des copains.
Ensemblés sur la plage, écoutant rire les enfants, je me dis que c'est dommage d'être emboucané si souvent. Les radios du voisinage ne parlent que d'emmerdement. Les connards te découragent, faut sortir le médicament. Allez,
montez la yoli, montez la yoli. Montez la yoli, montez la yoli. Montez la yoli, montez la yoli.
Ici,
montez la yoli, montez la yoli.
C'est pas difficile de faire la fête avec les gens de ton quartier. De ton quartier. Spécialement dédicacé à tous mes amis de la mer de mai. Un bon moyen pour vivre ensemble et puis surmonter les difficultés, difficultés. Ne perdons plus de temps alors qu'il y a tant de choses valables à inventer, à inventer.
Plein de langues, mettre le son, afin de poser des questions, boire des coups, trouver des solutions. Ça fait les VIP, prendre le micro tout le temps. Ignorer la FP, faire l'amour en occitan. Pousser les meubles, sortir l'accordéon. Faire une de ton, boire des coups, écrire des chansons. Et jamais s'arrêter, faire débloquer les minots. Danser les papés pour interloquer les connos. Faire le troubadour, provoquer les rencontres. Chanter le pour, chanter le contre. Allez,
montez la yoli.
Se prendre la tête entre nous et de galérer, spécialement dédicacé à tous ceux qui sont soupés déterminés, déterminés. Il faut régler les problèmes qui depuis toujours nuisent à l'humanité, l'humanité. Faisons plus la gueule alors qu'il y a tant de bons moments ensemble à passer, oui à passer.
Que ton aïoli prenne, mélange bien, c'est important. T'as bien compris le système, il faut agiter. Personne à la traîne, il te faut tous les ingrédients. Et tu verras que sans peine, tu mets le monde en mouvement. Allez,
montez la yoli, montez la yoli.
Ici,
montez la yoli, montez la yoli.
Montez la yoli, montez la yoli.
Les Marseillais de Massilia Sound System savent faire monter l'aioli dans leur album Occitanista en 2002.
Saveur savante sur France Inter.
Le gras, donc en cuisine, la matière grasse sert à faire des émulsions. Si on devait passer en revue rapidement les autres principaux usages culinaires du gras, il y a aussi la cuisson.
Il y a la cuisson, c'est une base de cuisson car elle permet de chauffer des aliments au-dessus de 100 degrés et de créer d'ailleurs ce côté croquant qu'on aime beaucoup dans certains objets croquants, dans les frites par exemple. Le gras, c'est aussi donner de la texture, on l'a vu, c'est aussi apporter des vecteurs de l'aromatique. Et dans la cuisson, faire très attention parce que les gras, les substances grasses, l'huile, autant que les graisses, quand on les fait chauffer, il ne faut pas trop les faire chauffer. À partir d'un certain moment, ce qu'on appelle le point de fumée, c'est un point de température à partir duquel les huiles passent en fumée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction sous l'effet de la chaleur qui fait que les huiles se brisent, les acides gras se brisent, libèrent des composés en phase vapeur qui sont plutôt désagréables, voire carrément toxiques. Donc faire attention, ne pas porter nos huiles trop fort et respecter ces températures, ces points de fumée, qui pour une huile végétale, par exemple, est autour de 215-230.
Le gras est aussi, et c'est sa face sombre, évidemment, un grave problème de santé publique. Comment en est-on arrivé là, Gabriel Lépouzé?
C'est pas le gras vraiment le problème, c'est plutôt la consommation excessive de gras, de mauvais gras, en particulier excès d'acides gras saturés. Je vais en citer quelques-uns, l'acide palmitique par exemple, palmitique, huile de palme, vous voyez où est-ce que je veux en venir.
C'est très controversé.
Et puis surtout, certains acides gras qu'on appelle les acides gras trans, qui sont fabriqués par les industriels de manière artificielle, par un processus qu'on appelle un processus d'hydrogénation. L'industriel s'est rendu compte que les acides gras saturés sont plus stables, ils résistent mieux à la réaction chimique, pas d'oxydation,
donc
pas de
plus pratique à utiliser dans le processus industriel.
Et plus pratique en plus parce que c'est solide, donc beaucoup plus facile à transporter. Le problème, il vient de là, c'est que ces acides gras trans et ces acides gras saturés fabriqués par l'industrie sont surreprésentés dans notre alimentation, surtout dans les produits transformés. Ces acides gras trans qui sont mal métabolisés par le corps. C'est des acides gras qui vont pas aller dans le tissu gras de notre corps et être stockés, mais qui vont être tout de suite transformés par le foie, qui, quand ils sont en excès, va induire indirectement de l'inflammation, une augmentation du cholestérol et des problèmes de risque cardiovasculaire. Il faut rééquilibrer notre rapport d'acides gras dont on a besoin. On l'a dit, il faut des acides gras insaturés parce que c'est ceux-là que le corps n'arrive pas à fabriquer, oméga 3 en particulier, surtout pour les enfants par exemple. Et puis éviter au maximum ces acides gras trans. Rendez-vous compte, dans un régime classique de fast-food, on va avoir 40% de nos calories qui viennent du gras, alors qu'on devrait en avoir seulement 10%. Donc il y a un excès de gras dans notre alimentation et dans certains types d'aliments. Et c'est là qu'il faut, par l'éducation, par le goût, essayer de retrouver où est le gras, l'identifier et identifier sa nature.
On a vu que le gras était donc une texture, mais il se murmure aussi dans la communauté scientifique internationale que le gras pourrait devenir une saveur comme le salé, le sucré, l'amer, l'acide, voire l'umami.
Effectivement, on a découvert à la surface de la langue la présence d'un récepteur capable de reconnaître certains acides gras. C'est un travail notamment d'une équipe de Dijon, l'équipe de Philippe Bernard, et certains chercheurs ont même proposé l'idée qu'on aurait une sixième saveur. Alors, comment on fait pour devenir une sixième saveur? C'est difficile. Il faut, certes, qu'il y ait un capteur sur la bouche, mais ça n'explique pas tout. Il faut que ce capteur soit présent au niveau des papilles gustatives, il faut que ce capteur soit capable de générer un message électrique qui va ensuite être amené jusque dans le cerveau, et puis, dernier point, mais pas des moindres, il faut que le cerveau soit capable de discriminer cette saveur. Et c'est là que nous, scientifiques, on a des difficultés encore à réussir à faire admettre l'existence de cette sixième saveur, parce qu'on a du mal à permettre au cerveau de verbaliser, de donner un sens à cette dimension gustative chimique. Et comme souvent, pour beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de perceptions dont on n'est pas conscient. Par exemple, il y a plein d'informations qui viennent de notre intestin, qui communiquent avec notre cerveau. Notre cerveau n'est pas conscient en temps réel de toute la chimie de l'intestin. Et pourtant, il interroge plein de choses. En bouche, c'est la même idée. On a beau avoir des récepteurs du gras sur la langue, peut-être qu'on n'est pas encore capable de percevoir cette saveur parce qu'on n'en est pas encore conscient.
Donc, gras, nouvelle saveur, recherche en cours.
Recherche en cours, in progress.
En attendant de savoir si le gras deviendra officiellement la sixième saveur après le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami, commençons par le cuisiner et le déguster avec raison, mais aussi un peu de passion. Tenez, dans un beurre de sauge par exemple, le fameux burro e salvia des Italiens. Dans une poêle à fond épais, vous faites fondre 100 g de beurre de micelle. Quand il est bien fondu, vous y ajoutez une douzaine de feuilles de sauge. Vous avez même le droit d'y ajouter un filet de jus de citron. C'est une sauce express, toute simple, pour accompagner des gnocchi, des pâtes, des petites escalopes de veau ou des pavés de saumon. Toutes les infos pratiques, les recettes et le podcast de tous les épisodes de cette série sont à retrouver sur franceinter.fr. Saveur Savante est réalisé par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à préparer cette série. Choix des textes littéraires Stéphane Solier, prise de son Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufis, Florent Bujon.
programmation musicale Djoubaka. Saveur Savante, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 8.
Pétillant.
On se retrouve demain dimanche à 11h pour une rediffusion dont on va déguster autour du yaourt. C'est l'été, salivez sur France Inter.